Vous n'êtes pas habitué d'entendre ça. On va parler du Masters en plein mois de novembre. Il faut dire que les températures que nous avons eues au cours des derniers jours nous ont mis dans une ambiance de golf. C'est pas tout le monde qui a eu l'occasion dans son horaire de placer une ronde. Là, j'espère que vous avez eu le temps d'en profiter. Mais le Masters commence demain. Notre spécialiste, le pro des pros, Dave Lévesque, est avec nous. Bonsoir, Dave.
Allô, Mario.
Alors, ça recommence demain. Dans un premier temps, là, avant de parler des joueurs, juste mettre la table, le fait que ça se passe en novembre, qu'est-ce que ça change exactement dans les conditions du terrain, la durée de jeu qu'on aura également, parce que le soleil se couche beaucoup plus tôt qu'en avril?
Oui, exactement. Donc, concernant la clarté, que le temps de clarté que l'Augusta National va avoir pendant les journées, c'est pour ça qu'à partir de demain, ça va être des départs en croisée. Donc, les joueurs vont partir au 1 et au 10, se croiser. Donc, pour permettre à tout le monde de pouvoir sécuriser la fin de leur ronde avant la noirceur. Ça, c'est la première chose. De ce temps-ci à Augusta, la noirceur arrive vers 5h30, 7h30. Ensuite de ça, pour les conditions de jeu, c'est des subtilités, mais ça va être vraiment des différences majeures pour les joueurs. En termes de gazon, de type de gazon que les joueurs vont avoir à affronter, on sait que, ben, ceux qui savent pas, Augusta National, le club de golf qui est l'hôte du Masters, est fermé pendant 6 mois par année. Donc, habituellement, à partir de la fin avril jusqu'au début octobre, le terrain est complètement fermé parce que le type de gazon qu'Augusta National a sur son parcours, c'est pas un gazon qui résiste bien à la chaleur. Augusta, qui est en Géorgie, c'est dans le sud, chaud, États-Unis, où est-ce que le Bermuda, le type de gazon que la majorité des clubs de golf ont dans cette région-là, puis jusqu'en Floride, c'est du Bermuda. Donc, c'est un gazon qui résiste bien à la chaleur, mais en hiver, c'est un gazon qui va dormant. Donc, c'est un gazon qui devient jaune, qui pousse plus. C'est pour ça que les gens, habituellement, qui vont jouer au golf l'hiver, là, dans la Floride, les Carolines, ces choses-là, souvent on va voir l'herbe longue va être toute jaune, c'est pour ça. Et puis Augusta National, pour contrer ça, durant l'hiver, ils vont ensemencer le parcours avec un type de gazon qui s'appelle du rye grass. Ce gazon-là, là présentement, il est en début de pousse. C'est un gazon qui est beaucoup plus faible, beaucoup plus mou comme grain de gazon par rapport au mois d'avril où ce que le master traditionnel va avoir lieu. Donc, ça va faire des petites différences. La différence majeure, c'est que le gazon en avril, habituellement, le ryegrass, le gazon va être un petit peu plus ferme. Il va soulever la balle un petit peu plus. Il va créer une petite couche, une petite épaisseur entre la balle et le fond du sol où ce que le sol est dur. Présentement, le gazon est plus mou un petit peu. La balle est beaucoup plus près du sol. La marge d'erreur est beaucoup plus mince. Les joueurs ont mentionné que c'est surtout autour des verres que ça va être beaucoup plus compliqué. C'est pas le même style de coup d'approche, l'angle d'attaque des bâtons. Les bâtons utilisés aussi vont être différents. Donc, c'est l'adaptation principale que les joueurs vont en faire. Et ensuite de ça, c'est un gazon présentement qui est beaucoup plus collant. Donc, les coups de départ vont beaucoup moins rouler. Donc, ça va être principalement là, ce que les joueurs vont affronter.
Bon, je lisais dans certains articles d'Observateur, tu pourras me le confirmer, que compte tenu de ce que tu viens de nous décrire, que ça va favoriser les longs cogneurs. Et écoute, ça fait des années que je commence toutes mes discussions de golf avec nos experts, dont toi, souvent en parlant de Tiger Woods. Mais je vais commencer, puis même chez le champion défendant, je vais commencer avec Bryson DeChambeau. Parce que il s'est livré à une expérience qui n'est pas terminée. Il a remporté le US Open. Je ne sais pas combien de livres il a accumulé depuis sa victoire au US Open. Je ne sais pas s'il frappe encore plus loin. J'ai vu que Nick Faldo avait enregistré une vidéo de Bryson DeChambeau là, où il chronométrait la vitesse de sa balle à 200 000 à l'heure avec une distance sous la pluie de 368 verges. Est-ce que la stratégie de DeChambeau de finalement de frapper le plus loin qu'il peut puis de s'organiser avec ce qu'il va avoir comme possibilité rendue là, est-ce que ça va marcher au Masters?
Ben oui, statistiquement, scientifiquement, c'est plus tu avances vite vers le trou, plus tu es avantagé. Bryson DeChambeau a pris un temps mort, ça fait un mois qu'on ne l'a pas vu sur le PGA Tour. Ça peut peut-être faire partie un peu d'équilibrer un peu son avantage en termes de habituellement tu vas arriver avec quelques tournois dernièrement là pour avoir mis en jeu un peu tes tes techniques. Donc, le fait qu'il n'ait pas joué depuis un mois, ça peut jouer un petit peu contre lui, mais il arrive plus fort. Il s'est entraîné fort pendant un mois. Comme tu dis, là, il a encore pris de la force, il a encore pris de la vitesse de bâton. Puis on parle souvent de ses coups de départ, mais Bryson DeChambeau, c'est de la puissance du wedge jusqu'au driver. Donc, ça veut dire que lui, lorsqu'il est à 200 verges, où ce que la majorité des joueurs vont frapper un fer 6 ou un fer 5, ben DeChambeau, lui, il frappe un fer 7 ou un fer 8. Donc, ça a l'avantage là, du coup de départ jusqu'au vert. Et puis, le fait qu'à partir de cette nuit, demain, ce qu'on va voir demain matin à Augusta National, c'est beaucoup de pluie. Donc, le terrain va être beaucoup plus ramolli, beaucoup plus ralenti. Ça va avantager encore plus les longs frappeurs qui vont être capables de faire parcourir la balle dans les airs sur les plus grandes distances. Tout ça étant dit, la dernière année, j'ai regardé les statistiques aujourd'hui, la dernière année où il y a eu beaucoup de pluie à un Masters, c'était en 2003. Le gagnant en 2003, pour ceux qui s'en souviennent, c'est Mike Weir, notre Canadien qui avait gagné en 2003.
Wow.
C'est Mike Weir, c'est pas vraiment pas reconnu pour être un long frappeur. Puis, malgré tout ça, c'est lui qui avait sorti vainqueur. C'est que ce qui équilibre un petit peu aussi, c'est que les coups au vert vont être beaucoup plus réceptifs. Plus un terrain est ferme, plus les coups verts demandent d'être stratégiques, plus les verts sont réceptifs, comme ce qu'on va voir demain. Ça permet aux plus frappeurs les plus courts de réussir quand même à laisser leur balle sur le vert sans que la balle là, parcourt tout le vert puis défonce de l'autre côté. Donc, ça va être à voir.
Bon, les noms auxquels on pense rapidement quand on pense à identifier ou essayer de prédire un vainqueur, bon, DeChambeau, Tiger, même s'il n'est pas sur une grosse séquence, quoique en meilleure santé que l'an passé avant le Masters, je ne sais pas ce que Tiger va faire. Bon, Spieth, Dustin Johnson, McIlroy, Koepka, je ne sais pas, Thomas, je vais parler de Ram tantôt, mais je veux te parler de son trou d'un coup cette semaine, mais qui vois-tu là émerger comme, toi, sur ta liste à toi, selon tes observations, ton favori en fin de semaine?
Je mets DeChambeau favori. Je mets Dustin Johnson deuxième. Dustin Johnson, il arrive quand même reposé parce qu'il a eu la COVID, il a attrapé la COVID il y a quelques semaines. Il est revenu au jeu la semaine dernière, il a fini deuxième en contrôle de son jeu. Puis dans les dernières années, il a toujours bien performé à Augusta National. Donc, il cogne à la porte. Donc, Dustin Johnson deuxième. Ensuite de ça, troisième, on va le mettre underdog parce que personne ne parle de lui, mais c'est McIlroy. McIlroy qui a eu un enfant plus tôt cet été, qui arrive là, vraiment pas de pression, personne parle de lui, mais il est en contrôle de son jeu. C'est le tournoi majeur qui lui manque pour compléter le Grand Slam, donc je le mettrais là. Puis si on avait à mettre vraiment un underdog parmi les grands, on mettrait Bubba Watson qui pointe bien, tous les phases de son jeu sont à point présentement. On n'entend pas trop parler, mais lui, il fait son petit train. Et puis, je pense que ça pourrait faire partie des vainqueurs.
L'incontournable Tiger, maintenant, je nous l'ai gardé pour un petit peu plus tard. C'est quand même une différence. Donc, il a commencé sa carrière au Masters il y a 25 ans. C'est le champion défendant. 82 victoires en carrière, 15 majeurs. Il n'est pas sur une grosse séquence. Il dit qu'il va être un contender. Donc, il pense qu'il y a des chances. C'est sûr qu'il faut que tu arrives dans cet état d'esprit-là. Sinon, t'es tout bien de pas y aller, Dave. Il dit qu'il est en meilleure santé que l'an passé avant le Masters. Il y a une chose qui est certaine. C'est un terrain qu'il connaît par cœur puis où, généralement, il a performé bien assez souvent. Je ne l'entre pas dans la catégorie des favoris. Comment vois-tu son week-end?
Non, Tiger, faut pas parler de lui tout de suite. Faudra attendre à la coupure vendredi soir pour voir son positionnement. S'il réussit à se rapprocher là, du top 20, top 30, on va pouvoir parler de peut-être une possibilité pour Tiger de remporter le tournoi. Jusqu'à présent, ce qu'il nous a offert comme performance cette année, c'est pas très bon. Il n'y a aucun momentum qui mène à ce tournoi-là. Donc, je pense qu'il fait pas partie des discussions présentement. Il pourrait nous surprendre là pour faire la coupure, mais présentement, là, je le vois vraiment pas là, rentrer en dedans du top 20, top 30.
Mais je regardais, tu l'as probablement vu, là, il y a eu quelques documentaires, reportages sur sa victoire l'an passé, qui a été son 15e titre dans un tournoi majeur. Je pense qu'on peut se dire, puis tant mieux s'il en gagne d'autres, ça va être bon pour le golf, ça va provoquer un buzz.
Absolument.
Mais il pourrait avoir complété sa série de victoires dans des grands chelems, que ça aurait été toute une finale que sa victoire de l'an passé. C'est ça. On regardera ça dans 15-20 ans, puis je sais pas si on pourrait le comparer à celui que Nicklaus a gagné à 46 ans, là, mais ça sera quand même une victoire mémorable, même s'il faudrait que ce soit sa dernière.
C'est exactement ça. Si tu compares ça à la victoire de Nicklaus à 46 ans, c'est exactement ça. Puis tu dis ça, puis il y a à peu près une heure à Golf Channel, il présentait la victoire de Tiger l'année passée. Je pense que dans le livre d'histoire, ça va faire partie d'une des grandes victoires. Puis un peu surprise. Personne vraiment s'attendait à ça, mais l'année passée, il y avait quand même un certain momentum par rapport à ces tournois qui avaient disputé le menant au Masters. Contrairement à cette année.
Le fait qu'on va jouer en absence de membres du public, il y aura des caméramans, il y aura peut-être un petit peu de monde au minimum, là, mais est-ce que ça favorise tous les golfeurs? Est-ce qu'il y a des golfeurs qui carburent à la présence de spectateurs? On pense tout de suite à Tiger, mais comme il n'est pas nécessairement un favori, mais où tu penses qu'on va avoir un niveau de concentration supérieur, peut-être des cartes de pointage en conséquence?
Oui, c'est un peu des deux. Sur le PGA Tour, il y a des joueurs qui carburent à l'énergie de la foule, comme tu dis, quand Tiger Woods, comme souvent les grands noms qui sont habitués à ça, McIlroy, Dustin Johnson. Puis t'as d'autres joueurs qui sont un peu spéciaux, un peu bizarres, qu'eux autres, ils sont jamais confortables. À la Bubba Watson, c'est un peu pour ça, ça fait partie des facteurs. Bubba, c'est quelqu'un d'un peu, je te dirais, dur à lire, qui a toujours une drôle de relation avec la foule. Donc lui, c'est le fait d'avoir personne, ça pourrait l'avantager. Mais pour nous à la télé, si je peux juste bifurquer un petit peu, ça va nous permettre pour une fois de voir le Augusta National. Le fait qu'il n'y ait aucun partisan, aucune estrade, aucune foule, aucune chaise, ça va nous donner à la télévision un aperçu qui est vraiment différent. On va voir vraiment ce que le terrain, à quoi il ressemble. On va pouvoir voir à travers chacun des trous. Donc ça va être un visuel complètement différent. Et puis pour certains joueurs, j'écoutais en conférence de presse Bryson DeChambeau qui disait que le fait qu'il n'y ait pas de partisans, pas de ligne de foule qui longe les trous, ça lui permet d'aller chercher des lignes de jeu qui sont différentes. Habituellement, les joueurs veulent pas frapper leur balle, premièrement pour blesser quelqu'un, ils veulent pas frapper vers la foule. Puis deuxièmement, ben tout est piétiné, la balle va souvent avoir une mauvaise position au sol. Donc, les joueurs essaient d'éviter les endroits où il y a des partisans. Cette année, ben, ça va ouvrir des lignes de jeu qui vont être différentes. Puis je parle un exemple sur le trou numéro 13, que les joueurs vont pouvoir utiliser leur driver puis frapper habituellement où la foule se tient à la hauteur des drives pour avoir un angle meilleur au vert. Donc, ça va être des petites différences qu'on va voir cette semaine.
Ouais, c'est un point de vue tellement intéressant. Puis on apprend toutes les fois qu'on t'entend parler de golf, Dave. Merci beaucoup. Et puis, bon tournoi. Puis on va suivre ça ensemble, si tu le veux bien. Puis c'est disponible au cours des prochains jours. Bien hâte de voir ça. Alors, on retient que ta prédiction, ton favori, c'est Bryson DeChambeau.
Exact. Ça fait plaisir, Mario. J'ai hâte de te reparler.
Merci, Dave. Merci. À bientôt. Bonne fin de soirée. Bye-bye.